Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ReLive, votre podcast sur l'amélioration du quotidien et du développement personnel. C'est l'épisode 137, nous enregistrons le 24 septembre 2023 et on va vous parler de charge mentale. Je suis Guillaume Vendée et je suis vraiment très heureux de retrouver Julien Deret. Salut Julien, comment vas-tu ?
Salut Guillaume, ça va très bien, mais on en parlera dans les actus, et je suis un peu fatigué, mais ça va.
Ah, c'est le soleil qui se couche un peu plus tôt, c'est le rythme de l'automne qui arrive peut-être aussi, et puis c'est peut-être aussi ton actualité, hein, évidemment. Bah, c'est l'automne, on rentre les deux pieds dedans. On n'est que tous les deux pour cet épisode, on fait un coucou à Matt, qui a d'excellentes bonnes raisons de ne pas être avec nous pour l'enregistrement de ce soir. Alors, c'est ce qui était prévu initialement. On peut peut-être lui faire un petit clin d'œil. C'était son anniversaire il n'y a pas très longtemps. Donc, bon anniversaire, Matt, de vive voix. Et puis, on avait un épisode de prévu ensemble sur un livre qu'on a tous lu et qu'on a pris le temps de digérer et dont on parlera dans le prochain épisode. Du coup, on a interverti, on a fait preuve d'agilité en adaptant notre planning aux contraintes du moment. Et merci à toi, Julien, d'avoir été l'initiateur du maintien d'un rythme sur le podcast et qu'on repousse pas et qu'on trouve des alternatives pour faire en sorte qu'on soit présent dans notre rendez-vous podcastique. On pestait un petit peu avant de lancer l'enregistrement avec Julien, gentiment, hein, tenez-vous bien, sur les lumières Philips Hue. Qu'est-ce qui se passe de ton côté, Julien ? Il y a ton interrupteur qui répond plus, c'est ça ?
Oui, alors c'est plus compliqué et pernicieux que ça, plus vicieux, j'ai même envie de dire. C'est que du coup, j'ai déménagé il y a pas très longtemps, j'ai bougé toutes mes Philips Hue, mais tu sais, les Philips Hue, et si tu mets tout d'un coup, c'est compliqué, t'as du mal à visualiser, donc je l'ai mis petit à petit, et en fait, je me suis rendu compte que ouais, dans une pièce, si tu mets deux lumières, tu configures ton interrupteur pour dire telle scène, tel numéro, tel nombre de clics, c'est telle scène, etc. En fait, après, quand tu rajoutes des lumières, Philips Hue te dit « Ah, c'est bon, j'ai intégré cette nouvelle lumière dans la scène, il n'y a pas de problème », mais en fait, c'est pas encore tout à fait configuré sur le bouton. Comme je disais, il doit y avoir de la duplication de données quelque part, et du coup, tu te retrouves à même les scènes par défaut, en fait, les créer, les personnaliser, puis les associer au bouton, tout devient assez confus, mais voilà, je vais juste prendre 10 minutes et puis c'est voilà, même si c'est 10 minutes, c'est plus que ce que je voudrais passer dessus, mais c'est, comme on dira, beaucoup de temps de gagner in fine et beaucoup de charge mentale en moins, donc écoute, ça vaut le coup, j'ai envie de dire.
C'est bien qu'on s'aborde pas tout de suite le contenu de notre épisode, Julien, effectivement, parce que ça fait partie des préconisations qu'on veut vous faire. Mais vous avez compris qu'évidemment, la domotique, en gros, le fait d'avoir des appareils de votre maison qui soient un petit peu intelligents, c'est une recommandation intéressante. Et pour autant, on sent qu'on est un petit peu dans une période où lentement, ça bascule. Les choses sont de plus en plus accessibles, mais pas encore tout à fait intégrées dans un quotidien fluide pour tout le monde. Ça viendra. Julien, on en profite. Est-ce que tu as des éléments d'actu à nous partager ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ?
Mon objectif de la semaine, c'était l'automatisation de la production de mon podcast Agilis, qui a été renommé. On a sorti le nouvel épisode cette semaine. Donc, le nouveau nom du podcast, maintenant, c'est Tech Ronins, en référence au samouraï errant du Japon, évidemment. Expertise technique, itinérance. On trouvait que ça nous correspondait bien. Et du coup, on change sur un surensemble, finalement, de l'agilité pour aller parler plus de leadership technique en général. Et à côté de ça, on se lance aussi en indépendant à côté avec Pierre pour aller proposer même du conseil à l'entreprise, de l'accompagnement sur de la transformation agile qui se passe pas comme prévu, du recrutement ou juste du leadership technique en général, de l'organisation, de l'agilité évidemment. Donc voilà, ça nous occupe tous les deux pas mal, mais on aime ça. Et du coup, sur tes conseils, je me suis penché un peu sur Auphonic pour l'automatisation de la production du podcast. C'est assez cool. J'ai commencé à taper un petit peu dans l'API et à automatiser tout ça. Parce que finalement, jusque-là, c'était moi qui faisais tout le montage et la gestion des compressions, de traitement du signal, etc. Et du coup, Pierre pouvait pas le faire ou alors il fallait qu'il improvise. Donc maintenant, c'est juste un script. Ça appelle toutes les API qu'il faut et du coup on donne juste deux fichiers en entrée et ça sort, le master en sortie, tout nickel avec les notes de l'émission, etc. Donc je suis fort heureux, ça m'a permis de remettre les doigts un petit peu dans le code après quelques années dans le management. Ça fait toujours du bien de revenir aux fondamentaux.
Carrément. Carrément, carrément. Ouais, c'est vrai qu'au phonique, on va en reparler peut-être un petit peu tout à l'heure. Il faudra que je prenne le temps un jour d'en parler. Je pense que c'est l'outil qui m'a fait gagner probablement le plus de temps dans ma vie de podcasteur. Là, on vous parle un petit peu des coulisses, mais je sais que vous aimez bien quand on vous parle de comment on fabrique nos contenus. Donc, on reviendra dessus, évidemment. Et puis, tu as noté dans le conducteur que tu prends tes marques dans ton nouveau chez toi. Alors, tu prends tes marques, c'est plus que d'installer les Philips Hue et les boutons qui fonctionnent bien, j'imagine.
Ouais, ouais, c'est plus que ça. Et aujourd'hui, après quelques semaines, c'était enfin le temps d'aller à Ikea. C'est le moment où pendant des semaines tu prends une grande liste de notes de ah ouais, il manque ça, puis tu vas à Ikea, la moitié des trucs que tu as notés tu les as pas pris, mais par contre tu as pris 200 000 autres trucs. Donc voilà, là je rentre tout juste de chez Ikea, j'ai juste eu le temps de déballer quelques trucs, donc voilà, je suis épuisé, mais je gardais une petite réserve d'énergie pour eLife et ça va très bien se passer, mais je suis toujours très heureux de mon nouveau chez moi. Je sens l'énergie qui revient, le nouvel environnement, ça fait plaisir.
C'est adorable. Au passage, c'est vrai que je me disais, finalement, on devrait, hein, dans la mesure du possible, plutôt maximiser l'achat de mobilier d'occasion pour des logements comme ça, sur lesquels, en plus, on n'est peut-être pas amené à rester pendant des dizaines d'années. Et de fait, il faut quand même reconnaître que c'est compliqué, je trouve, d'équiper tout un appartement ou une maison quand tu emménages rapidement avec de l'occasion. Hein. C'est un des sujets sur lesquels le neuf et l'achat d'une seule fois de contenu neuf est quand même plus pratique. J'ose même pas imaginer si tous les meubles que tu as pris, tu étais allé les chercher chez des personnes qui le vendaient différentes. Bon, peut-être que tu aurais acheté plus précisément ce que tu voulais. Tu vois, tu n'aurais pas acheté plus de bougies et de trucs comme ça. Mais bon, écoute. Bon, et bienvenue chez toi, Julien. C'est très agréable que tu prennes tes marques. J'en profite pour vous partager quelques éléments de news. Alors, on parlait justement de Philips Hue. Je me dois quand même de vous tenir au courant. Je sais qu'une partie d'entre vous, et parmi les plus technophiles, est très, très vigilante au fait d'avoir les interactions et un maximum la main sur ce qu'ils ont chez eux, bah, chez eux, sans dépendre du cloud. Et il y a un petit signe là qui commence à pas sentir très très bon du côté de Philips Hue, donc ce prestataire dont on parle régulièrement à la fois dans Tech Café mais aussi dans ReLive, qui vous permet d'apporter de l'intelligence dans vos lumières. Ils vont vous demander de vous créer un compte, ça va être obligatoire même si vous êtes sur le hub. Alors il y a encore des moyens détournés, mais j'ai l'impression que Philips Hue et notamment l'entreprise Signify a l'air d'aller vers une orientation un petit peu moins libre qu'avant. J'imagine que c'est parce qu'ils ont besoin de rentabiliser un petit peu plus leurs services. On verra. Bon, ça, je voulais juste vous en tenir au courant, comme on parlait des Philips Hue et qu'on va en reparler. Un tout autre sujet, Julien, que je voulais te partager. Est-ce que tu as un composteur chez toi ?
Alors non, j'ai pas de composteur. En vrai, maintenant que j'ai un balcon, je pourrais m'en équiper sans que ça ait trop un mauvais impact, j'imagine, sur mon quotidien.
Ah, très bien.
C'est à réfléchir. Ça va faire partie peut-être des nouvelles choses à mettre en place.
Alors, en 2024, je suis pas encore complètement certain de si c'est la ville d'Amiens ou en France ou j'en sais rien. Je pense que c'est la ville d'Amiens où j'habite, mais le composteur va être obligatoire. Alors, ça pose plein de questions parce que tu vois, j'imagine mal qu'il y ait la brigade propreté qui vienne le matin, qui sonne et qui dit « Montrez-moi votre composteur, prouvez-moi que vous en avez un ». Bon, je pense que c'est un début d'orientation. Il n'empêche, la ville d'Amiens propose d'accompagner les foyers à hauteur de 30 euros pour l'achat d'un composteur. Donc, j'ai envie d'en profiter légitimement. Et j'ai commencé à regarder et je me rends compte que c'est un univers assez cool. Il y a un sujet pour lequel j'étais vraiment pas emballé au départ, mais je pense que je vais quand même me tourner vers cette solution. Et surtout, si j'arrive à convaincre le reste de ma famille, c'est les lombricomposteurs, qui consistent en fait à avoir une espèce de dispositif dans lequel vous avez vos déchets organiques que vous mettez. Alors, il faut aussi, hein, il y a un petit peu de règles à respecter. Il faut mettre un peu de papier de temps en temps. Il ne faut pas mettre trop de ceci, trop de cela. Bon, c'est toute une logique à appréhender. On récupère comme ça, on diminue le volume de nos déchets d'environ 30% d'après les mesures qui ont été faites, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. On peut se servir du terreau qui est généré pour les plantes, pour le jardinage, tout va bien. Et donc, il y a cette technique à base de petits vers, quoi, des lombriques qui viennent digérer un peu vos matières organiques et qui transforment ça Alors, il en existe plein. Il en existe beaucoup qui sont pensés, bah, encore heureux, sans odeur. Il y en a qui vont sur les balcons. Julien, je dis ça, je dis rien. Il faut juste pas que ce soit exposé aux intempéries. Et je commence à lorgner sur quelques appareils qui me semblent vraiment très sexy, notamment en terre cuite, assez élégant, dans lesquels tu peux en profiter pour mettre une plante dessus. Donc bon, tout ça me plaît énormément. Je suis en train de me passionner sur le sujet. Donc surtout, je fais un appel aux auditeurs. Si jamais vous avez déjà étudié le sujet, bah, vous savez où me trouver, hein, sur les réseaux sociaux, Guillaume Vendée, notamment sur Instagram. Je sais que vous êtes quelques-uns à me contacter dessus, ça me fait très plaisir. Ou sur le serveur Discord de Tech Café, n'hésitez pas, je serais très preneur de vos retours. Un autre sujet, Julien, que je voulais aborder dans l'actu, je suis sûr que tu l'as vu passer, moi j'ai mis un petit peu de temps à me plonger sur le sujet, c'est sur les automatisations de Notion et comme on va parler de se libérer la charge mentale. Ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais ça me semblait intéressant de le relever. Est-ce que tu as vu passer les automatisations? Et est-ce que tu les as testés?
Alors, je les ai vus passer, oui. J'ai vu le test de Shubham Sharma, évidemment. J'y ai pas encore mis les doigts dedans parce que pas exactement besoin pour l'instant. Mais j'utilise depuis longtemps des automatisations avec Notion en le connectant avec d'autres trucs no-code. On pourra en reparler après, mais je suis très content que ce soit maintenant intégré dans l'outil dans une certaine mesure.
Ouais, c'est pas encore complètement parfait, mais ça fait quand même beaucoup de choses. La vidéo de Shubham Sharma que tu cites sera dans les notes de l'épisode. Il donne des exemples très concrets, notamment du calcul du temps qui est passé à réaliser une tâche quand on utilise Notion pour la gestion de nos tâches, comment ajouter des tâches automatiquement, comment les assigner quand on les fait glisser d'une colonne à une autre automatiquement à des personnes. Je trouve ça top. Il explique bien, hein, que c'est un début et que ça apporte beaucoup, mais que ça a vite ses limites. C'est très très chouette en tout cas de voir que cet outil évolue. Je suis pas certain qu'on arrivera à convaincre Matt avec cet argument-là d'utiliser Notion, mais c'est pas le but, vous l'avez compris. Et peut-être que vous, si vous l'utilisez, ça vous intéressera. Un autre sujet, toujours dans le registre des vidéos, Julien, que je voulais relayer, et ça me montre à chaque fois à quel point je consomme trop de vidéos, ce sont les vidéos de Nowtech. Alors, je sais que Matt les aime beaucoup, tu les regardes aussi, j'imagine, de Jérôme Kenborg. Et alors, j'aime beaucoup cette chaîne YouTube qui est pour moi l'archétype du contenu intelligent et pertinent parce que il est hyper accessible, donc c'est pas du très haut niveau, tu sens que tu vas pas avoir besoin de vider ton cerveau pour appréhender ce qui est transmis, et en même temps ils t'apprennent toujours des trucs. Moi qui ai le sentiment d'être déjà un power user, notamment de l'environnement Apple, bah, j'en apprends toujours, il y a toujours les 2-3 petits trucs qui font que je me dis mais ouais, mais en fait j'utilise pas bien le truc, quoi. Et notamment, alors il y avait la vidéo sur Rappel, il y a eu la vidéo sur la gestion de la bibliothèque photo, la vidéo sur les raccourcis dont on va parler un petit peu plus tard dans l'épisode, qui sont pour moi des masterclass. Vraiment, si vous êtes, alors en particulier dans l'environnement Apple, hein, allez jeter un coup d'œil à la chaîne Nowtech, c'est vraiment un sacré coup de cœur de mon côté qui est renouvelé. Et puis dernière chose, un peu d'autopromo, Julien, on parle souvent de ChatGPT et des assistants basés sur les modèles de langage avec intelligence artificielle. On a fait un épisode dont je suis particulièrement fier avec Guillaume Poggiaspala qu'on a enregistré la semaine dernière. En fait, c'est l'épisode supplément de la semaine dernière de Tech Café. Il s'appelle « Usage Lamasté ChatGPT sur ton PC ». Et Guillaume Poggiaspala a préparé un dossier en 3 temps. Le premier temps était vraiment un niveau extrêmement accessible pour tout un chacun. Alors évidemment, il faut un peu de ressources machines, mais vous verrez, vous serez peut-être surpris qu'il ne faut pas forcément non plus des machines qui sont surdimensionnées pour faire tourner des modèles de langage en local et faire tourner votre propre ChatGPT en local. Il y a des niveaux intermédiaires et avancés qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin, notamment avec une version un peu serveur chez vous que vous pouvez interroger et vous l'avez hébergé chez vous, donc vraiment vous le manipulez. Je trouve ça captivant, je trouve ça magique, c'est riche de pédagogie. Je vous invite évidemment à aller écouter cet épisode si vous ne l'avez pas déjà écouté. Est-ce que tu avais écouté cet épisode, Julien? Est-ce que tu serais intéressé pour l'écouter, le cas échéant?
Ah non, je l'ai écouté religieusement, comme tous les épisodes de Tech Café, évidemment.
Excellent.
Et oui, j'ai découvert, moi, de mon côté, Mac Whisper. Alors, on n'est pas sur des choses aussi compliquées à faire, aussi compliquées entre guillemets, ou aussi poussées à faire tourner que Llama, etc. Mais c'est incroyable de faire tourner ça en local, et j'ai trouvé un cas d'usage extrêmement pertinent, qui est que j'ai commencé à regarder Top Chef la saison dernière, avec ma copine qui ne parle pas français, qui parle un peu, qui doit pratiquer son français. Et du coup, j'utilise Mac Whisper pour générer les sous-titres.
Génial.
Et ensuite, tu peux exporter ça en fichier SRT. Hop, tu le mets sur ton serveur et ça tourne. Et je suis vraiment bluffé. Alors, Philippe Etchebest, il arrive toujours à trouver une... faudrait vraiment que je fasse une vidéo avec ça parce que c'est vraiment bijou. Mais sinon, globalement, ça marche très, très bien. Et c'est vraiment un usage... qui est devenu une évidence et je me suis rendu compte que j'avais tout sur mon ordi pour générer les sous-titres.
Génial.
Pour Top Chef et il y a quelques années c'était on n'aurait pas imaginé. Et Top Chef ou encore n'importe quel film français, les vieux films français, généralement c'est très difficile de trouver des sous-titres de qualité. Là tu les auto-génères et franchement à 99% c'est parfait, le timecode sont nickel, vraiment un bonheur.
Génial. Oh, on vit une époque assez incroyable. Challenge quand même, hein, parce que Top Chef, c'est quand même de la cuisine, donc c'est pas forcément les éléments de discussion et de langage qui sont les plus répandus, donc forcément les plus, à la base, de ce qu'on pourrait penser, les plus intelligibles. Et puis, effectivement, il y a Philippe Etchebest dedans, et c'est pas non plus lui le plus facile. Non pas qu'il prononce pas bien les mots, hein, mais bon, c'est une personnalité, évidemment. On a un petit retour d'un auditeur que je voulais partager. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne sais pas si c'est le canal idéal, mais enfin, on prend tout de toute façon, hein, on prend tous les retours. C'est un Julien, donc forcément quelqu'un de qualité, qui m'a envoyé un message privé sur LinkedIn et qui a réagi à ce qu'on a abordé dans le précédent épisode, notamment quand on a abordé le sujet d'Obsidian, dont je précise tout de suite, on va caler un petit peu les détails, mais on a Valkan qui fait la semaine de Valkan dont j'ai parlé dans le dernier épisode et qui utilise Obsidian, qui va avoir la possibilité de faire une espèce de session type meet-up en ligne pour les auditeurs de Relife et en particulier ceux qui nous soutiennent sur Patreon. Donc, on vous en reparlera. Mais venez vous abonner à Patreon si vous voulez être sûr de ne pas rater cet événement. Mais il est... Donc, j'ai eu un message privé de LinkedIn qui me dit « Dans mon contexte... » Je vais le lire parce que c'est vraiment intéressant. « Dans mon contexte, le choix d'Obsidian a été amené d'abord par des besoins professionnels. » Il explique que sa boîte travaille surtout avec Google Workspace, ça m'étonne d'ailleurs, mais quand je citerai pas le nom de la boîte, mais ça m'étonne. Et je n'ai jamais réussi à prendre mes notes avec Google Keep ou Doc malgré des dernières features bien pratiques. Mais aussi par des contraintes, je travaille sur des sujets cybersécurité, hors de question de transiter certaines informations via un service tiers comme avec Notion. Je peux le comprendre. Ma problématique dans la prise de notes vient de l'absence de cloisonnement de l'information. Je m'explique, toute réunion est généralement dédiée à un sujet, mais les discussions peuvent concerner d'autres sujets connexes. Ou alors certains points particuliers sont suffisamment intéressants pour le remonter à d'autres instances. Donc dans la pratique, une note est bien liée à une réunion, dédiée à un sujet sur une date et une heure donnée, mais son contenu est beaucoup plus vaste. Je trouve, je fais une petite pause, je trouve qu'il formule en deux paragraphes une problématique qui est très forte et je suis sûr que tu la rencontres plusieurs fois par jour, Julien. Enfin, je sais pas si toi t'as trouvé une solution idéale pour ça, mais le fait d'associer comme ça un thème que tu abordes dans une réunion à d'autres thématiques. Bref. Tout ça c'est bien et un simple doc pourrait faire l'affaire, mais comment consommer ces données qui sont sagement mis à plat dans le document? C'est là que je trouve Obsidian excellent, car à travers des jeux de tags, organisation de dossiers, génération de tâches, je peux rendre ces données mortes entre guillemets à moins de tout relire, très requêtable et surtout organisé automatiquement. Désormais, via mon organisation Obsidian, je prends mes notes de réunion et certaines notes volantes quotidiennes et tout vient se ranger au bon endroit sans effort supplémentaire. Les tâches sont regroupées, ça me fait rêver moi, les tâches sont regroupées par deadline, les livrables attendus aussi, mon glossaire d'acronymes se constitue tout seul, toutes mes notes, réunions, volantes, tâches et livrables sont regroupées par sujet chronologiquement. Le mec est quand même en train de décrire la situation idéale pour un épisode sur la libération de la charge mentale. Bref, cerise sur le gâteau, parce que oui ça ne suffit pas, je peux dans une note invoquer les points à partager avec le groupe de personnes en face de moi sur une simple combinaison de touches, ce qui m'évite d'oublier certains points et de les rayer facilement dès qu'ils sont abordés. Maintenant, je peux chercher une information chronologiquement par texte, par tag ou en sélectionnant mon sujet dans l'arborescence. Comme tu le constates, je n'en suis pas à lier mes idées nécessairement entre elles comme mentionné par Julien, si ce n'est pas par les tags, mais j'exploite, donc il parle de toi, mais j'exploite Obsidian dans le sens où il répond à mon besoin précis de rendre mes notes vivantes et donc utiles et trouvables par le moyen que mon cerveau malade aura choisi sur le moment. Je trouve ce retour, alors d'une part hyper intéressant parce que Obsidian a l'air d'être extrêmement puissant, puis peut-être que ça peut vous motiver à aborder le sujet, mais sur un thème de la charge mentale comme on a prévu de l'aborder dans cet épisode, Julien, je trouve que ça pose d'emblée une question centrale et j'ai envie de l'aborder avec toi. Obsidian a l'air d'être un outil d'une puissance complètement dingue une fois que tu l'as mis en place. Il libère ta charge mentale et je ne doute pas une seule seconde que le témoignage de ce Julien sur LinkedIn là est réaliste. Et en même temps, À chaque fois que je me suis frotté à Obsidian, j'ai eu cette friction du temps à investir dedans. Et d'ailleurs, je peux faire le parallèle avec Notion, avec lequel j'ai mis énormément de temps avant de l'utiliser, et pour lequel Matt exprime d'ailleurs sa frustration de ne pas arriver à franchir ce premier pas qui permet d'utiliser l'outil. La charge mentale, première étape, Julien, et c'est peut-être par là qu'on peut commencer. Est-ce que toi, tu arrives à arbitrer facilement, si oui, comment, entre des outils qui te facilitent la vie, mais qui te demandent un investissement de départ? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je trouve pas de solution parfaite sur cette question-là. J'ai du mal à arbitrer, en fait.
Ouais, c'est une question compliquée. Je dirais pas que j'y arrive, mais je pense que avec mon passé de développeur, je suis tombé maintes et maintes fois, et encore récemment, comme j'en parlais avec l'automatisation d'Ophonic, vraiment, j'avais pas besoin de passer 10 heures à coder un truc nickel pour tout automatiser. Mais du coup, j'ai un ingénieur, ça procrastine beaucoup à essayer d'abord de rentrer dans le fond d'un truc pour ensuite commencer à l'utiliser et en fait se rendre compte dans la majorité des cas qu'on a juste créé un monstre qui finalement ne rentre pas exactement dans nos usages. Bref, du coup, moi, ça me plaît beaucoup d'aller gratter et fouiller pour essayer de comprendre comment un outil fonctionne et comment je pourrais l'utiliser au mieux. En général, juste, je me rends compte que mon usage, finalement, il n'est pas tout à fait aligné avec ça. Mais moi, je trouve ça intéressant, en tout cas intellectuellement, d'aller gratter. Cela dit, Obsidian, j'avais pas exactement vu ça comme ça, et là, de l'aborder sous cet angle-là, ça commence vraiment à m'intéresser, parce que je prends mes notes dans Notion, mais vraiment, c'est à part la date et les personnes qui sont dans la réunion, ça fait pas grand-chose, et surtout, comme l'autre Julien l'exprimait, c'est pas tout lié ensemble, alors c'est compliqué, faut vraiment le faire soi-même. J'imagine dans Obsidian, il faut le faire soi-même, mais c'est facilité. À mon avis, à partir de demain, je vais vraiment commencer à me dire pour 2 semaines, je vais prendre l'outil en test, je vais y aller, et puis on va voir. Mais je pense que de toute façon, il y a que ça. Au bout d'un moment, il y a le mur, il faut commencer à grimper un peu la pente, et puis après, une fois qu'on l'a passé, ça rigole. Mais il y a toujours une période d'apprentissage comme ça qui est compliquée, mais il faut s'accrocher.
Ouais, effectivement. Et puis c'est peut-être pas mal, c'est bien. Moi, j'aime bien ton enseignement là que j'ai gardé, qui est de dire je me donne 2 semaines. C'est peut-être pas mal de se donner effectivement une date butoir, une période qu'on va consacrer à tester un outil et puis de se faire un arbitrage à ce moment-là pour se dire est-ce que je le garde ou est-ce que je le jette. Je trouve que c'est une bonne démarche. Julien, on avait donc prévu, on rentre directement dans le vif du sujet, on avait prévu de parler de charge mentale. Comment tu considères, toi, ce que c'est que la charge mentale? Et c'est quoi tes outils phares et tes techniques pour lutter contre ce poids au quotidien?
Alors, peut-être encore une fois, c'est peut-être mon passé de développeur qui fait ça, mais on a l'habitude de dire que les développeurs sont des gens paresseux et que du coup, ils essaient par tous les moyens possibles d'aller au chemin, le chemin le plus court. Et en fait, ce chemin le plus court, une fois que tu sais coder, eh ben, t'arrives à le créer toi-même, donc ça qui est intéressant, et du coup tu te crées tes propres outils, donc peut-être avec cet état d'esprit-là, instinctivement j'essaie d'éliminer tout un maximum de charge mentale, et je trouve que le bouquin de Fabien Olicard dont on devait parler, dont on parlera la prochaine fois, l'aborde finalement pas mal aussi, si je me rappelle bien. C'est ouais. Toujours essayer, pour moi, si je devais donner une espèce de définition hein, comme ça un peu off the top of my head, ce serait essayer d'éliminer un maximum de friction. En fait, moi, dès qu'il y a quelque chose à un tout petit peu de friction, je le fais pas vraiment, ça m'énerve. Et les plus petits trucs, mais genre même juste aller faire des courses, même si je dois juste traverser la rue pour aller à Lidl, vraiment ça m'énerve, et je préfère passer plus de temps à cuisiner et faire des recettes les plus alambiquées possibles pour vider les placards que d'aller faire les courses, quoi. Et du coup, c'est vraiment ancré en moi. C'est de la paresse ou je sais pas ce que c'est, mais la moindre friction, je le fais pas. Et pourtant, vous savez, je fais plein de trucs. Donc, il faut que je m'adapte en permanence pour rendre tout ça et tout rendre ça possible. Et aussi, ça, une fois qu'on a pris le pli, ça permet de faire rentrer simplement plus de choses dans une journée. Quand on a tous des journées de 24 heures, la seule différence, c'est comment est-ce qu'on organise ces 24 heures-là. On n'est pas obligé de maximiser tout le temps, mais bon, si tu arrives à gagner une demi-heure, une heure par jour, ramener sur un an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça fait la différence entre j'ai eu le temps de courir un marathon, j'ai eu le temps d'apprendre un truc, de passer un diplôme, de voir plus mes enfants ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est un peu une une question de survie quelque part. J'ai envie de vivre, j'ai besoin de vivre la vie au maximum. Et du coup, il faut que j'élimine un maximum de friction pour pouvoir vraiment passer du temps de qualité, pouvoir me mettre à 200% sur tout ce que je fais plutôt que de faire de la comptabilité, faire toutes les tâches manuelles. J'ai du mal à vivre avec moi-même quand je fais ces choses-là.
J'aime beaucoup ton approche et ta vision des choses et j'y souscris. Je pense que de toute façon, notre environnement, notre quotidien nous a amené d'une part à nous faciliter les choses sur beaucoup d'aspects et en même temps de nous la compliquer sur beaucoup d'autres. Je trouve qu'un très bon exemple, c'est nos fameux échanges à distance qu'on peut faire régulièrement, que ce soit pour les enregistrements de podcasts, dans le monde du travail, etc. C'est qu'on est en 2023, on sent que c'est une capacité incroyable. On nous a permis d'échanger en face à face, alors qu'on est n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment. C'est génial. Et pourtant, ça marche toujours pas. Oui, ça marche, mais on a toujours les micros qui fonctionnent pas bien, qui sont désactivés, les gens qui oublient de les couper, les webcams qui bug, les moments où t'arrives pas à te connecter. Et en fait, c'est assez emblématique pour moi de en quoi notre monde en 2023 nous ajoute de la charge mentale. C'est qu'on nous offre beaucoup de facilités, on nous offre beaucoup de possibilités, et en même temps, il y a plein de petites frictions. Et en plus de ça, je pense que c'est aussi un état d'esprit, un environnement humain dans lequel, bien ou pas bien, hein, on est installé. C'est que j'ai l'impression que désormais, quand on nous sollicite, alors peut-être pas pour tout le monde, en tout cas je vais faire part de mon témoignage à moi, mais quand on me sollicite sur quelque chose, et ça peut être quelque chose de très chouette, du genre aller boire un verre, du genre aller au ciné, genre tout de suite c'est une somme de petites micro-tâches qui doivent se rajouter dans mon esprit. Et je pense que voilà, je suis pas suffisamment à l'aise pour gérer ça avec tranquillité et souplesse. Peut-être qu'il faut que je fasse plus de méditation, mais ça me rajoute un petit peu de charge mentale. Alors, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je suis pas un aigri de la vie et je prends pas tout ce qui m'arrive comme étant une tâche insurmontable. Mais je pense qu'il y a quand même tout un ensemble de choses. Et moi, j'ai besoin d'outils, j'ai besoin de réflexes, j'ai besoin de solutions pour vivre mieux ça. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ReLife est un environnement qui me plaît tant en tant que podcast pour échanger. Alors, c'est quoi ton outil numéro 1 que tu citerais pour lutter contre cet afflux de charge mentale?
Alors, quand on a commencé à préparer cet épisode, le premier outil qui m'est venu en tête, et vous le connaissez parce que j'en parle tout le temps, c'est mon bullet journal. C'est vraiment, ça m'enlève une charge mentale considérable et je l'utilise vraiment tout le temps, tous les jours, 24 heures sur 24. Mon iPad est allumé, avec l'écran allumé tout le temps, déverrouillé sur une page GoodNotes, avec il est prêt à faire feu tout le temps. Et la première chose qui me vient en tête, c'est cette notion d'inbox qu'il y a dans la méthode GTD ou dans le bullet journal. C'est le fait de voilà, on parle d'un truc, je sais pas, on est en réunion, peu importe, j'ai un truc qui me vient en tête. Ah bah attends, il faudrait que je sais pas, j'attends les gens en réunion, je me vois dans la cage, je me dis tiens, faut quand même que je me rase. Hop, je note, tac, se raser. Terminé. Plus besoin d'y penser, plus besoin de « ah ouais, mais attends, mais je vais oublier et tout. » C'est noté. Et si c'est noté, ben, ce sera pas perdu parce que j'ai une méthode. Et vraiment, le bullet journal, ça me permet de mettre toute ma vie dedans, même si c'est un truc à faire dans 4 ans, et ben, boum, tu le notes. Je sais pas, tu souscris à une assurance santé, t'as 2 mois gratuits, mais parce que tu payes à l'année, mais l'année prochaine, et ben, tu pourras payer au mois pour le même prix qu'à l'année et parce que t'auras pas le discount une deuxième fois. Ben, boum, tu te le notes dans un an, changer mon assurance santé pour passer en mensuel parce que ce sera mieux. Et je sais pas, bullet journal, l'organisation comme ça à très court, moyen et très long terme, tout dans un seul outil, en particulier avec l'iPad où il y a vraiment tout et tout est synchronisé, c'est un bonheur, ça a changé ma vie, ça a optimisé ma vie, donc c'est vraiment mon outil numéro 1.
Question piège, et je sais qu'on l'avait déjà un petit peu abordé quand tu avais justement parlé du bullet journal, mais plus précisément, est-ce que le fait d'avoir ton bullet journal sur un iPad ne t'amène pas à être exposé plus facilement à des petites notifications, des petites bulles rouges, des petits sons, des petites applications qui sont bien pratiques, bien sympas, bien sexy, qu'on a envie de lancer? Je sais qu'un des archétypes du bullet journal, c'est le fait de l'avoir en papier, parce que c'est comme ça que ça marche d'abord, monsieur, et que c'est pas connecté. Toi, t'arrives bien à différencier?
Alors, sur mon iPad en particulier, c'est mon outil de travail, donc toutes les notifications sont désactivées. Il n'y a quasiment pas d'application installée. Il y a Netflix pour quand je suis en vacances ou cas particulier. Mais non, sinon, j'ai quasiment rien installé sur mon bullet journal. Sur mon iPad, il y a Freeform, GoodNotes et c'est à peu près tout.
Je t'imaginerais bien avoir un iPad dédié à ta fonction de bullet journal, en fait. Tu sais, un iPad mini compatible avec le Pencil, en plus. Je te donne envie. Très bien. Écoute, moi, j'ai un outil que je vais glisser en miroir, un double outil, et je pense que certains vont avoir l'impression qu'on se répète, mais je pense malgré tout que c'est un petit peu important de le souligner, parce que à l'image du bullet journal, moi, vraiment, je ne sais pas comment je pourrais faire aujourd'hui sans les to-do list. Alors, ça peut être tantôt Todoist que j'ai utilisé pendant des années, ça peut être maintenant l'app Rappel sur iOS, ça peut être toutes les autres apps de liste de to-do que vous pouvez avoir. Je crois que vraiment, s'il y a une base par laquelle on doit commencer, si on rentre dans une démarche de s'assainir le quotidien, c'est effectivement le fait d'avoir un réceptacle dans lequel on va pouvoir noter les trucs qui nous viennent, les petites tâches. Et là où je t'envie, Julien, c'est que j'imagine bien le fait que dans la manière dont tu vas écrire avec ton pencil sur ton bullet journal, le fait de tracer, le fait d'aller commander un truc, le fait de rajouter des couleurs et tout, il y a une espèce de subtilité dans l'écriture et dans la saisie des choses qui fait que tu peux donner de la valeur à la manière dont tu rentres les choses. Moi, j'ai cette petit inconvénient, les personnes qui utilisent principalement des to-do list ont cet inconvénient de ne pas avoir autant de souplesse parce que bah, tu rentres du texte et il y a un truc à cocher en face. Alors oui, il y a les liens, oui, il y a les images, oui, mais c'est pas aussi simple, c'est pas aussi intuitif. Je fais une petite parenthèse quand on parle des outils numériques et papier parce que je suis... Désolé, vous allez voir que je passe trop de temps sur YouTube, mais je suis tombé sur la dernière vidéo de Science Étonnante, que j'imagine tu as vu aussi, Julien, qui fait écho à sa première vidéo de la rentrée où il parlait justement de l'apprentissage. Et là, c'est une vidéo qui dénote un petit peu des autres vidéos qu'il a l'habitude de faire parce qu'il explique comment il utilise les cartes mentales. Je suis bluffé, Julien, je pensais savoir ce que c'était qu'une carte mentale. Je me trompais pas complètement, mais... je ne l'avais pas vu du tout sous l'angle dans lequel il l'explique et je pense que j'utilisais tellement mal. Là aussi, j'étais un petit peu l'archétype de celui qui utilisait les cartes mentales avec les apps. Tu sais, avec MindNode, par exemple, qui est une super application pour ça. Et il explique à quel point les cartes mentales, c'est un très mauvais outil de communication. En fait, ça m'a foutu une claque parce que nombre de fois où on m'a présenté des choses, où j'ai vu des cours de mon fils au collège qui sont présentés sous la forme de cartes mentales, objectivement, c'est naze. Et le fait que c'est tout sauf en numérique qu'il faut faire une carte mentale. En fait, le processus de faire une carte mentale, pour moi, c'est une manière de sauvegarder de l'information dans le temps. Et non, en fait, la manière dont on doit considérer la carte mentale, bon, selon, encore une fois, David Lois, après Science Étonnante, mais j'y souscris pas mal après avoir vu sa vidéo, c'est le fait de la réaliser qui va t'aider à apprendre et à comprendre un sujet. J'aime beaucoup cette nouvelle vision de l'outil, je risque de l'utiliser. Et là aussi, je pense que ça a vraiment ses limites, comme il l'explique, d'utiliser une app pour faire ça. Alors peut-être Freeform pourrait peut-être servir d'intermédiaire, je ne sais pas, pour les plus puristes numériques d'entre nous, mais bon. Tu savais, toi, que c'était ça, l'utilisation idéale des cartes mentales, Julien ?
Alors oui, non, je me suis renseigné sur les cartes mentales il y a un ou deux ans de ça. J'étais tombé sur des vidéos dont je ne me rappelle plus. C'est un professeur d'université aux États-Unis qui, le premier cours qu'il donne à ses étudiants, c'est... voilà, je vais vous expliquer comment faire des cartes mentales, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Il vient avec un certain nombre de méthodologies et ça m'avait beaucoup ouvert les yeux et finalement ça fait beaucoup écho à ce que David Lois explique. Et effectivement, maintenant quand j'utilise MindNode et tout, ça, MindNode justement, je vais l'utiliser plus pour un outil, un peu comme un outil de communication quelque part. Ça permet okay. de prendre des notes sur un truc qu'ensuite je vais pouvoir partager, mais je me retrouve très vite bloqué en fait, et maintenant j'utilise beaucoup Freeform parce que t'as cet aspect vraiment carte infinie où tu peux y aller
libre,
et je reste un peu frustré par Freeform quand même parce que si tu veux réarranger, parfois tu commences à partir dans une direction et puis tu dis ah bah attends, mais non, mais ça c'est, serait plus relié à ça, et du coup je sais pas, peut-être que je devrais juste accepter que ça va être un peu dans tous les sens, mais j'ai un peu du mal. Et après, réorganiser les trucs, c'est pas si évident. J'aimerais bien un outil qui puisse faire les deux, tu vois, qui comprenne que certains trucs sont liés ensemble et que tu puisses les réarranger. Encore une fois, je sais pas si ça rentre vraiment dans la meilleure utilisation des cartes mentales.
Je pense qu'il faut accepter effectivement qu'il y ait des limitations hein, si on fait ce genre d'exercice de faire des cartes mentales avec Freeform, mais bon, je suis comme toi, moi j'ai trop besoin d'avoir le contrôle et de pouvoir gérer les choses. Bon, dans mes essentiels piliers de libération de la charge mentale, c'est un peu plus spécifique, mais vraiment, vraiment, je ne peux qu'insister, si jamais vous avez toujours pas fait la démarche, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe là encore pour ceux qui aiment l'univers Apple et ceux qui sont bien intégré parce que le gestionnaire de mots de passe intégré à iOS, à macOS devient suffisamment puissant pour qu'on aille jusqu'à un niveau de partager les mots de passe. Alors ça y est, Matt s'est évidemment jeté sur cette fonction pour organiser le partage des mots de passe Relife auprès de Julien et de moi-même, puisqu'on est tous rattachés à l'univers Apple, et j'avoue que ça a une certaine praticité. Du coup, par extension, j'abandonne et je me rends compte que c'est pas simple d'abandonner un gestionnaire de mots de passe pour un autre, c'est pas si simple en fait, même si ça se fait bien. J'abandonne 1Password pour moi aussi n'utiliser que les services Apple. Je vais économiser je crois une cinquantaine d'euros par an, ce qui est pas dégueulasse. Mais voilà, si vraiment il y a un truc pour lequel vous allez gagner du temps et pour lequel je vois une charge mentale qui est rajoutée en permanence pour toutes les personnes de mon entourage, c'est la gestion des mots de passe. Et vraiment, j'insiste, que ce soit ma famille, mes amis, mes collègues ou même des grands managers qui se retrouvent parfois face à moi dans le cadre de mon boulot, je suis amené à leur expliquer des choses sur les réseaux sociaux et ils ont besoin de me montrer eux ce qui se passe sur leurs réseaux sociaux à eux, et je me rends compte qu'à chaque fois se connecter est compliqué. Passent du temps, tous autant qu'ils sont, à chercher leur mot de passe, à faire des mots de passe oubliés, etc. C'est un truc, vu l'implantation du numérique dans notre quotidien, je ne comprends pas aujourd'hui. Ça devrait même être expliqué à l'école, je pense, maintenant, les gestionnaires de mots de passe. Donc voilà, ça, c'était un peu mon triptyque, les rappels et to-do list, les notes dont j'ai suffisamment parlé en long, en large et en travers, et puis les gestionnaires de mots de passe, c'est un peu mon triptyque de base.
Alors, pour rebondir sur les gestionnaires de mots de passe, alors moi, je suis un gros utilisateur de LastPass avant, 1Password maintenant, oui. Parce que LastPass... Hein, et pour quelqu'un qui voyage pas mal et qui déménage de pays en pays, je change de temps en temps de numéro de téléphone. Tu vois, typiquement, apprendre un nouveau numéro de téléphone, pour moi, ça fait partie de la charge mentale, tu vois. Et tous les trucs, les numéros de sécurité, ton numéro de sécurité sociale, enfin, tout, ton adresse, j'ai déménagé déjà 3-4 fois depuis un an et demi que je suis à Lisbonne. Je retiens pas mon adresse à chaque fois. Et du coup, j'ai tout dans 1Password à chaque fois. Boum, je clique. Est terminé. Alors oui, il y a plein de gens qui rigolent qui me demandent mon numéro de téléphone et que je dois regarder sur mon téléphone. Mais pour moi, ça fait partie du truc. Et au moins, quand tu veux commander en ligne, boum, tu fais un clic, c'est parti. Et puis même maintenant, pour si on parle de mot de passe, préparez-vous au futur. Maintenant, il y a les passkeys qui commencent vraiment à être intégrés. Donc les passkeys, c'est une espèce de signature qui va être ensuite rentrée dans votre gestionnaire de mot de passe, mais qui va être ensuite débloquée par une sorte de biométrie. Et ça vous permet carrément de vous affranchir d'un mot de passe pour votre compte Google, Apple, GitHub, etc. Voilà, si c'est le moment de se mettre un gestionnaire de mot de passe, parce qu'ils vont commencer à devenir vraiment même plus des gestionnaires de mot de passe, ça va vraiment être des gestionnaires de sécurité, il n'y aura même plus vraiment de mot de passe.
Préparez-vous à libérer votre charge mentale durablement et faites cet exercice une bonne fois pour toutes, nom de Dieu. On continue avec des sujets un petit peu moins tech. Il y a toute une rubrique que tu voulais aborder, Julien, de la charge mentale, mais dans la vie au quotidien, dis-moi.
Oui, comme je disais, pour moi, la charge mentale, c'est quelque chose de... Le moindre petit truc, je vais essayer de l'optimiser. Alors, j'essaie de ne pas être maladif avec ça. On en parlera encore de Fabien Olicard, qui a des exemples parfois, qui je me dis, wow, ça va quand même, il a mis beaucoup de temps de réflexion là-dedans. Mais tu vois, c'est des trucs tout bêtes, genre mes chaussettes, voilà, c'est toutes les mêmes, elles sont toutes en vrac. Quand j'en ai besoin de plus, je vais sur ma dernière commande Amazon de mes chaussettes et puis je reprends des chaussettes et puis terminé, c'est toujours les mêmes. Je sais que c'est la même taille, pareil pour les chaussures de sport, les chaussures en général, les vêtements en général, j'ai envie de dire. Quand j'achète un nouveau jean, ben, je vais chez Levi's, je leur dis, ben, regardez la taille derrière, voilà, je veux le même, terminé. Et en fait, je fais ça avec plein de trucs. Alors, j'ai mis plein d'exemples un peu en vrac, mais voilà, si vous cuisinez un peu, faire des sauces en grande quantité dans un mixeur, déjà, il n'y a pas besoin de découper tous les trucs, découper les gousses, etc. Balancez tout ça dans un mixeur, vous faites un litre de sauce salade ou de sauce multi-usage. Il y a plein de recettes sur YouTube. Il y en a des véganes, des pas véganes, des plus ou moins riches, des plus ou moins diètes. Et comme ça, hop, tu mets ça au frigo, et puis à chaque fois que tu cuisines, hop, t'as un choix entre deux, trois sauces qui sont déjà préfaites et qui sont déjà pleines, riches de saveurs, tu vois. En 2 minutes, tu peux faire un truc, tu juste cuisiner un peu plus. Le nombre de fois, moi, je repurpose toujours des trucs, je fais un peu plus, et puis après, bah, c'est pas grave, ce truc-là, t'as mis déjà 1 heure à le cuisiner, donc, bah, tu l'ajoutes à un truc que tu mets 30 minutes à cuisiner, et puis t'as un truc qui est super bon, alors que ça te prend pas de temps. Je parlais des courses. Moi, du coup, j'ai pas de voiture et j'habite dans une capitale. Donc, très rapidement, je me suis rendu compte que faire livrer ses courses, c'est incroyable. Tu cliques, voilà, ma dernière commande, tu recoches. hop, tu le reçois. Et puis j'ai la naïveté de penser que en termes écologiques, bah, c'est peut-être plutôt que chaque personne vienne avec sa voiture individuelle au supermarché, qu'il y ait quelqu'un qui fasse une ronde qui va être optimisée, puisqu'ils ont un intérêt économique à optimiser leur course, ce soit un peu plus intelligent. Si, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas. Je reçois des cagettes de légumes bio aussi, parce que c'est pareil, se faire livrer du sec, c'est une chose, se faire livrer du frais, c'est encore un autre problème, parce que bah, le frais, si tu te le fais livrer, si tu fais des courses une fois par mois ou une fois toutes les deux semaines, bah, après ça pourrit, donc tu veux quand même toujours, donc c'est pareil, j'ai des je ne sais plus comment on appelle ça en France, des AMAP, quelque chose comme ça, gros des cagettes de légumes bio qui poussent à Lisbonne. Et du coup, c'est que des fruits et des légumes de saison. Je reçois ça toutes les deux semaines. Et comme ça, j'ai des trucs toujours frais. Et un petit bonus technologique pour les plus geeks d'entre vous. J'ai découvert il y a quelques années Swilling. On mettra le lien dans les notes. C'est une marque d'instruments de cuisine et qui essaie justement de vous rendre un peu plus organisé et un peu plus geek, tout simplement, j'ai envie de dire. Et ils ont un outil de mise sous vide qui est incroyable. Alors, ça coûte un peu cher, vraiment, mais je vous le conseille. Et ça permet de mettre sous vide. Alors, il y a des sacs, il y a des tupperwares, ils ont tout un tas de trucs que vous pouvez mettre sous vide. Vous avez juste à acheter la pompe et puis ensuite les ustensiles. Et c'est incroyable parce que tu reçois tes carottes. Les carottes, j'adore ça, mais au bout de 3 jours, elles sont toutes molles, elles sont toutes moches. Et tu les mets dans un bag, dans un sac, hop, tu les mets sous vide. Au bout de 2 semaines, elles sont encore fraîches, mais comme si tu venais juste de les recevoir. Donc c'est pareil, je trouve ça enlève un peu de la charge mentale, parce que t'as pas à dire ah bah attends, vas-y, c'est pas les produits qui périment qui te contraignent dans ce que tu vas manger, c'est toi qui décides, tu vois. Donc voilà, tout ça, c'est des petits trucs, aiguiser ses couteaux, avoir du bon matériel en général, voilà, y a plus encore plein d'autres trucs.
La mise sous vide, d'ailleurs, il y a. Je sais que c'est Lidl de temps en temps qui font une machine, je crois, avec des sacs. Alors, je ne connais pas du tout la qualité, mais le prix est hyper accessible. Donc, j'aime beaucoup en tout cas cet état d'esprit que tu décris, parce qu'en fait, quelque part, c'est un état d'esprit de créativité et de reprise en main de son quotidien pour essayer de faire en sorte que on ne subisse pas le quotidien et les petits détails. Il y a là aussi un truc, je ne veux pas qu'on déflore trop le livre de Fabien Licard, dont on parlera effectivement la semaine prochaine, mais il parle du rangement pas conventionnel. Et je trouve que c'est assez représentatif du genre, et ses sous-vêtements, ils sont rangés dans sa salle de bain, quoi. Et je trouve que c'est finalement beaucoup de bon sens, et c'est pas conventionnel, on n'a pas l'habitude de ranger ça comme ça. Et il se dit bien, il souligne bien dans son bouquin à quel point, en fait, on s'en fout un peu des conventions et des règles qui sont établies. L'idée est évidemment de se simplifier le quotidien. Donc, posez-vous de la question sous un angle plutôt créatif, peut-être. On va continuer, peut-être, Julien, avec les aspects technologiques. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais tu voulais reparler de lumière connectée, notamment.
Ouais, alors les Philips Hue, alors je ne sais pas si on peut vraiment parler de charge mentale, mais quand j'ai déménagé dans un appart qui n'était pas un studio, je me suis rendu compte à quel point ça... Tu sais, quand tu vas te coucher et puis que tu dois faire le tour de la maison pour éteindre toutes les lumières, ça me rend fou. Et puis en plus, c'est pas toutes les lumières, mais il y a les interrupteurs muraux, mais il y a aussi peut-être les petites lumières d'ambiance que t'as allumées par-ci, par-là. Vraiment, moi, ça me rend dingue. Et du coup, les Philips Hue, alors, c'est un peu luxe et c'est un peu gadget, mais vraiment, une fois qu'on y a goûté un petit peu, c'est incroyable. Tu peux mettre des petits interrupteurs un peu partout, ça s'allume tout seul le matin, t'arrives dans ton bureau, hop, il y a la lumière qui commence à de plus en plus forte pendant la première heure de travail. Voilà, quand tu vas dans ta chambre le soir, il y a déjà les deux lumières à côté du lit qui sont allumées, qui sont prêtes à t'accueillir. Non, vraiment, c'est un bonheur. Quand ça marche, c'est un bonheur.
Il me semble qu'il y a d'autres marques, hein, d'ailleurs. Alors moi, j'avoue que je suis assez puriste de Philips Hue aussi, mais en fait, il y en a plein. Et je pense même que dans les magasins type Action et compagnie, parfois, il y en a. Et d'ailleurs, Lidl a aussi sa gamme domotique. Décidément, on pourrait penser qu'on est sponsorisé par Lidl. N'allez pas imaginer que c'est le cas. C'est pas... Bon, on est peut-être dispo, hein, vis-à-vis de Lidl, mais en tout cas, c'est pas le cas. Et il existe plein de solutions, en fait, d'ampoules connectées. Et je reconnais que le fait de ne pas avoir te déplacer dans ta maison pour éteindre, ou même savoir, en fait, si des pièces sont restées allumées. Et crois-moi, quand quand tu as en plus des enfants qui sont pas toujours très rigoureux sur ce genre de choses, bah c'est top. Moi, je voudrais même aller un cran plus loin. Alors, je pense que c'est assez représentatif de ce qu'on abordait tout à l'heure avec Obsidian, c'est qu'on est, ce que je vais décrire, relève vraiment de l'effort et de l'organisation à avoir au bénéfice d'un gain de charge mentale à l'avenir. Mais c'est vraiment un investissement et c'est pas immédiat et je peux comprendre que ça n'aille pas à tout le monde. Mais vraiment, ce qui se passe en matière de domotique pour remettre les mains dans le logiciel qui s'appelle Home Assistant, c'est assez incroyable. Je ne sais pas si ça devient accessible 100% au grand public. Hein. Il y a quand même un aspect qui est un peu obscur et qui va parler plus aux technophiles. Je pense que le public de ReLife est suffisamment appétant pour ce sujet et a déjà peut-être même expérimenté. Mais c'est assez remarquable de se dire qu'aujourd'hui, tu peux acheter un petit Raspberry, les petits ordinateurs miniatures. Là. Tu installes Home Assistant dessus. Ça se fait très bien. D'ailleurs, Home Assistant a sorti une box clé en main, je crois pour une centaine d'euros, donc ça revient un petit peu cher, mais que si tu le faisais toi-même, mais à la limite ça rend les choses encore plus accessibles. Mais en gros, tu lances ton Home Assistant chez toi, qui est un petit serveur et que tu peux interfacer vraiment avec n'importe quoi. Et enfin, bon, il y a des limites. Hein. Il y a mon vélo électrique là qui, moi, je pensais aurait pu être connecté. J'y suis pas arrivé. Je pense qu'il y a encore des choses qui arrivent doucement mais sûrement. Mais c'est assez remarquable ce qu'on peut faire. Je me suis même rendu compte cette semaine qu'il y avait des gens qui avaient intégré Pronote dans Home Assistant. Alors, Pronote, pour ceux qui ne sont pas parents ou qui sont un peu âgés, ne savent pas que Pronote, c'est le logiciel, notamment des collégiens, qui permet d'interfacer la vie de l'école avec les parents et avec le corps enseignant. Et dans Pronote, il y a plein de choses. Et je suis surpris de voir que c'est assez utilisé par le corps enseignant. Je pense qu'ils ont vraiment des objectifs et des directives là-dessus. C'est assez utilisé au point que on peut très bien imaginer maintenant avoir une intégration dans Home Assistant avec Pronote pour faire en sorte que le réveil de votre enfant sonne en fonction de l'heure à laquelle il va commencer les cours. Je trouve ça remarquable. On peut aussi imaginer faire en sorte que la prise connectée sur laquelle est branchée la console, évidemment ça se détourne vite, vous l'avez compris, mais la prise connectée sur laquelle est branchée la console ne s'allume que quand les devoirs sont faits. Enfin, il y a vraiment un truc que je trouve assez remarquable. Oui, vous pouvez même imaginer l'empêcher d'allumer la lumière dans sa chambre si jamais il a eu des mauvaises notes. Oui, vous pouvez aller très loin, évidemment. Non, c'est juste pour montrer que les intégrations peuvent demain avoir un potentiel assez dingue. Moi, le fait que je ne me pose plus la question de savoir si... je n'ai plus à ouvrir ma boîte aux lettres pour savoir si j'ai du courrier. Je le sais parce que j'ai un capteur qui vibre quand ma boîte aux lettres a détecté du courrier qui arrivait. Le fait, effectivement, comme tu le décris pour les lumières, qu'elles puissent s'allumer et s'éteindre automatiquement. Le fait que je puisse mettre en place un avertissement qui dit « Attention !» Il va pleuvoir dans l'heure qui arrive. Tu as laissé les fenêtres ouvertes. C'est un confort pour le cerveau qui est absolument dingue. Une serrure connectée est peut-être d'ailleurs le truc encore plus accessible que des lumières connectées parce qu'il n'y a pas besoin d'équiper toute la maison. C'est un endroit central. Et je vous avoue que vraiment, ça change la vie. Ma conjointe, qui n'était vraiment pas partante au départ, a été hyper vite rassurée et ne jure que par ça maintenant. Je ne parlerai même pas du thermostat connecté. Bref, on vit à une époque où, si jamais vous êtes d'accord pour investir un petit peu de temps pour potentiellement gagner beaucoup de mains et surtout au-delà du temps de gagner en charge mentale, la domotique, c'est vraiment un sujet qui est extraordinaire. Il y a un petit piège, hein, c'est qu'on peut vite passer du temps à essayer de bidouiller les trucs ou à essayer de corriger des petits problèmes, mais on sent que ça arrive. En plus des lumières, tu as connecté des choses chez toi ou c'est peut-être compliqué si jamais tu déménages régulièrement, cela dit, toi, de ton côté.
Ouais, puis je suis pas propriétaire, donc il y a une différence sur déjà ce que j'ai le droit de faire, mais aussi, bah, comme tu disais, l'investissement que je suis prêt à faire. Alors, en ce moment, non. Alors, j'ai un serveur Synology chez moi avec toute la panoplie pour télécharger tout un tas de distributions Linux automatiquement quand elles sortent. Voilà, tout ça. Et des sous-titres qui vont avec. Mais au-delà de ça, non, j'avais un thermostat connecté à une époque quand j'étais à Londres, parce que finalement ça a changé et rechangé, c'est pas si compliqué, et c'était incroyable, juste pouvoir rentrer des vacances de Noël en France et pouvoir mettre la température qu'il faut, et quand tu prends l'avion et t'arrives chez toi, boum, ou l'Eurostar si tu prends le train, et t'arrives chez toi et il fait la bonne température, c'était vraiment cool.
C'est vraiment hyper agréable et une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de revenir en arrière. De manière générale, on va terminer avec deux principes liés à la libération de la charge mentale. Le premier, tu avais noté, toi, dans le conducteur, l'automatisation des tâches répétitives. Ça, c'est super intéressant. Et alors, ça va faire des ponts avec plein d'autres épisodes de ReLife, même avec, je pense, Agilist, Tech Running maintenant. mais c'est vraiment des principes qui sont intéressants. Dis-nous.
Encore une fois, j'ai juste mis quelques exemples qui me venaient en tête. Mais on en parlait le montage du podcast. Moi j'aime beaucoup, et puis en plus avant je réécoutais tous les épisodes de Agili, j'ai écouté tout pour être sûr qu'on ne disait pas de bêtises, pour aller sourcer un petit peu. Comme on parle de boulot, on n'a pas envie de se bloquer dans la discussion, mais on n'a pas non plus envie de dire des trucs qu'on n'a pas trop le droit de dire, donc je vérifiais tout. Maintenant on a pris un peu plus le pli, donc comme je perds moins de temps en édition, et ben je me suis dit je peux accélérer plus sur avoir plusieurs intros. Si tu vas avoir un extrait au début, ensuite une intro, et ensuite le contenu, et ensuite une outro, ça devient vite un peu compliqué. Après les notes de l'émission, etc., donc tout ça s'automatise très bien maintenant. On en parlait, j'utilise Notion AI pour la communication aussi, donc j'utilise Notion pour le conducteur, et maintenant avec toute l'IA dans Notion, on peut en un clic générer la communication pour LinkedIn, la communication pour Twitter, les notes de l'épisode, etc. Et ça c'est pareil, c'est, ou même juste l'extrait pour les petites 5 secondes que tu prends au début de l'épisode pour dire on a parlé de ci, on a parlé de ça. Comme de toute façon Notion a accès à tout le conducteur, tu cliques sur un bouton et boum, ça te fait une phrase sur mesure avec un prompt qui peut être dans le template directement. Donc ça, incroyable. Et puis ensuite sur d'autres trucs, moi je me suis pas mal sous l'impulsion de Shubham Sharma, il me semble bien, je me suis mis un peu dans le no-code et dans un outil que j'ai oublié, make.com.
Il en parle souvent.
Il en parle souvent, et effectivement c'est très très puissant, et j'utilise pour pas mal de trucs, connectés ou non à Notion, mais par exemple pour des investissements que je vais faire tous les mois, où c'est pas des investissements automatiques, c'est moi qui vais dire combien je vais investir, et ensuite il faut que j'envoie un mail à une personne qui va s'occuper de faire ces investissements, etc. Avant il fallait à chaque fois que j'écrive un mail et tout, enfin c'était une plaie. Maintenant j'ai juste une base de données dans Notion, je mets la date, le montant pour tel truc, le montant pour tel truc, le montant pour tel truc, et hop, ça envoie un mail automatiquement, et comme ça la personne aussi elle le reçoit. C'est toujours le même format, c'est toujours très clair, parce qu'avant j'ai eu aussi des quiproquos où en fait la personne avait mal compris le mail et tout machin, parce que tu l'as écrit à la zob sur ton téléphone et tout. Bref, là c'est automatisation, et avec l'automatisation vient la standardisation aussi, donc finalement ça facilite aussi la communication et la collaboration avec les autres personnes, un peu comme je disais pour les scripts de montage de Agilist, de Tech Runnings. Maintenant Pierre peut le faire aussi, plutôt que de lui faire un tutoriel détaillé en disant tu cliques là machin et tout, là voilà, il a juste une API, il est développeur, il sait comment ça marche, il a un script, il le fait tourner, ça marche. Donc je trouve qu'il y a aussi cet aspect standardisation, collaboration, qui est très pratique. Et c'est pareil, je sais pas, pour les listes de courses connectées dans la famille, etc. C'est pareil, c'est standard. Voilà, il suffit juste de se mettre d'accord sur le standard, mais ensuite ça roule. Et finalement, il y a la facturation. Moi, j'ai un statut d'indépendant, pas exactement, mais de freelance pour mon boulot, parce qu'on embauche dans toute l'Europe, et bref c'est comme ça, on n'a pas toujours des entreprises locales pour nous embaucher en tant qu'employés vraiment officiels. Du coup je dois émettre une facture chaque mois, et cette facture elle est débile parce que c'est toujours le même montant, c'est juste le montant de mon salaire, il faut juste incrémenter un nombre et mettre à jour la date. Donc ça évidemment j'ai fait un joli template, et maintenant je sais que tous les 17 du mois, boum, ça envoie la facture, et ça envoie une copie à mon comptable, et terminé, j'ai pas à y penser.
C'est fou hein, on en revient vraiment, ça aurait été pour moi le fil conducteur, et c'est difficile de donner une réponse universelle, mais d'arriver à se rendre compte à quel point on peut gagner à condition d'investir un petit peu de temps et d'énergie au départ. Finalement, parfois, c'est pas tant que ça, hein, ça relève vraiment de la charge mentale. Quand tu me parles d'un template pour tes éléments administratifs, finalement, techniquement, c'est vraiment pas très compliqué, mais il y a toujours cette petit investissement de départ, alors en temps, mais aussi c'est tellement facile de refaire une tâche qu'on a faite des millions de fois, plein de fois, je vais pas dire des millions, mais plein de fois, que de se rompre dans cette habitude-là et de recréer quelque chose à zéro, même si c'est pour gagner du temps. Tu sais, il y a même un truc, au fond, qui était assez emblématique pour moi, c'est les copier-coller. Un copier-coller, on va pas se mentir, on sait tous faire un copier-coller, on connaît le raccourci, on y va, copier-coller, boum. Je me suis rendu compte en observant un peu mon quotidien, je saisis beaucoup de mails, je fais pas mal de traitements en bureautique, qu'il y avait plein de fois où, plutôt que de gérer un copier-coller, je préférais retaper le truc parce que c'est pas plus rapide pour moi, mais c'est plus fluide et ça, ça casse moins mon habitude. Et c'est une erreur, en fait. Hein. C'est vraiment une erreur grossière et débile. Et je pense que ça peut être assez représentatif de l'approche qu'on doit avoir pour libérer sa charge mentale. Je voudrais conclure avec un truc, Julien. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé et qui me semble, en fait, assez important. C'est au même titre que quand on gère des tâches, tu sais, qu'on essaie de les prioriser, etc. Il y a toujours une rubrique dans la matrice d'Eisenhower où on dégage la tâche. On la fait pas, on la jette. Allez pas. Et ben en fait, de savoir dire non, je pense que c'est un élément là aussi qui demande un effort au départ, qui demande un petit investissement parce que c'est plus facile de dire oui. Quand tu dis oui à quelqu'un, t'as moins besoin d'argumenter, t'es d'accord. Tu peux dire un oui mais c'est presque déjà un non. Bref, dire non, vraiment, c'est compliqué, mais c'est vraiment une source de gain en termes de charge mentale qui est assez incroyable. Et on ne peut que inviter les auditeurs aussi à se poser la question de quand ils répondent oui très vite, ils peuvent revenir dessus et peut-être se mettre en position de non.
Ouais, c'est un investissement hein, parce que dire non en soi, ça peut être un peu une charge mentale, mais c'est pas une charge mentale récurrente, ouais, tu vois, c'est un investissement, c'est comme tout, et tu disais tout à l'heure, c'est plus facile parfois de refaire une tâche répétitive parce que tu as l'habitude, t'as pas besoin d'y réfléchir et tu vas le faire rapidement, mais finalement, automatiser et se sortir un peu de sa zone de confort pour aller essayer de gratter un peu un outil qui va nous permettre d'automatiser un truc, oui, la première automatisation, elle va vous prendre beaucoup de temps, mais la deuxième un petit peu moins, et finalement, plutôt que de monter en compétence sur une tâche répétitive qui a peu de valeur ajoutée, vous montez en compétence sur quelque chose qui vous permet d'automatiser tout le reste. Donc c'est, comme je disais, c'est un investissement, et savoir dire non, c'est pas facile, mais c'est un super pouvoir, vraiment. Moi, je dis non tout le temps, et pourtant j'ai toujours du boulot, hein, donc y a, tu vois, c'est, parfois t'as un peu peur, moi le premier je me dis ah mais non, mais si je dis non à ça, attends, qu'est-ce qu'on va penser et tout, mais non, en fait, finalement les gens ils finissent par respecter aussi que voilà, bah non, moi c'est moi qui gère mon temps comme je veux, et puis si je suis sûr que j'ai le droit de dire non, parce que c'est pas toujours le cas, mais il faut essayer, vraiment essayer, que dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe.
On peut toujours dire plus non qu'avant. On ne peut pas dire non à tout, mais on peut un peu plus dire non qu'avant, assez souvent en tout cas. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Julien, que tu voulais qu'on livre pour cet exercice autour de la charge mentale qu'on aura livré à nos auditeurs ?
Il y aurait sûrement plein de choses, mais je pense qu'on on a déjà fait un tour assez exhaustif.
Ça vous aidera, j'espère, en tout cas, à orienter votre quotidien vers moins de charge mentale. Je voudrais en terminer pour reboucler sur quelques recommandations. Alors, je ne vais pas revenir sur la vidéo de Science Étonnante sur les cartes mentales ou sur la vidéo raccourcie de Naotech, parce que je les ai déjà citées. Il y a la vidéo raccourcie de Naotech qui est vraiment emblématique aussi de cet aspect au quotidien sur votre environnement Apple, là aussi, où cette application qui ne nécessite pas un iPhone récent, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir l'iPhone 15 Pro pour le faire, mais qui vous permet de créer plein d'automatisations hyper pratiques et aussi plein d'automatisations, notamment, mais pas que, si vous avez connecté votre maison. Donc là, voilà, dans la vidéo de Naotech, il y a notamment le fait d'activer automatiquement le noir et blanc au coucher, le fait d'envoyer automatiquement des récaps des rendez-vous par email, le fait de lancer des applications sur des écrans scindés sur iPad. Il y a, je crois, 8 automatisations qui sont montrées, 8 raccourcis. Et surtout, il vous explique comment faire des raccourcis. Donc allez jeter un coup d'œil, ce sera un très bon complément, je pense. Je voudrais compléter, oui, Julien, avec 2 recommandations de contenu que j'ai vu en vidéo. Tu dois t'imaginer, et peut-être que tu n'as pas tort, mais que je passe trop de temps devant les écrans pour regarder de la vidéo. D'une part, une recommandation sur Disney+. J'ai découvert qu'il y avait la série qui avait forgé une partie de mon identité qui s'appelle X-Files, aux frontières du réel pour les francophones, qui était dispo sur Disney+. Alors, je me suis dit, Julien, mais c'est pas possible. X-Files, c'est sorti dans les années 90, la qualité doit être terriblement dégueulasse. Eh ben écoute, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont remasterisé le truc, où ça a été retravaillé, les images sont tout à fait regardables. Alors, le côté vieillot, hein, évidemment, ce que lit dans le premier épisode, elle dit bien qu'elle va faxer ça aux internets, comme vous le savez, mais au-delà de ce côté vieillot, au-delà de l'image du téléphone portable qui arrive que progressivement et qui au début sont des très gros appareils, ben, en fait, c'est vachement bien fait et l'image est de très bonne qualité. Il y a quelques plans, bizarrement, tu te dis, les mecs, ils ont enfin, notamment, je me rappelle, il y a un plan dans l'épisode que j'ai vu hier, c'est des oiseaux qui passent dans le ciel et tu sens que l'image elle est très dégradée et que la qualité, et j'imagine que les personnes qui ont fait le remaster de la vidéo, ils se sont dit oh, ça c'est bon, personne s'en rendra compte, suivant, parce que ça doit être un boulot énorme, mais en fait ça a bien été remasterisé, c'est vraiment chouette d'aller voir. Et je vous mets un article, si vous n'avez pas envie de vous fader les N saisons de X-Files, je sais pas combien il y en a exactement, mais il y a Slate qui a fait un article sur les 10 épisodes à regarder, et effectivement comme c'est les 30 ans de X-Files, ben ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil peut-être au moins à ces 10 épisodes assez extraordinaires. Et puis une autre série que je voudrais brancher, je te laisserai réagir et compléter Julien dans la foulée si tu veux derrière, mais Tapie sur Bernard Tapie sur Netflix. En fait, je l'ai vu arriver au dernier moment, cette série, je me suis fait complètement embarqué, c'est hyper bien foutu. Je crois savoir qu'en plus c'est une série qui fonctionne très bien et je n'aurais pas pensé à l'international. C'est très romancé, hein. Il y a énormément d'éléments historiques qui sont mis de côté et d'autres qui, voilà, des éléments qui sont rajoutés. Donc c'est inspiré, mais c'est quand même inspiré de la vie de Bernard Tapie, qui est quand même un mec complètement incroyable. On pourrait faire un épisode sur ce type dans un épisode de Real Life, tant il conjugue à la fois les capacités de revoir les choses sous un angle différent, alors que personne n'aurait pu le faire. Enfin, tu vois, vraiment cette capacité à vraiment imaginer les choses sous un angle qui n'a été vu par personne auparavant, et en même temps à faire des actions complètement grotesques qui le font malheureusement glisser alors qu'il est en pleine ascension. Bref, vraiment, je vous recommande, si vous n'avez pas vu Tapie, elle est vraiment très chouette. C'est 7 épisodes à regarder, et en plus, vraiment, le dernier épisode mérite d'être vu. Je pense que je vais le revoir. Il y a une scène dedans qui est très longue, mais qui, moi, m'a laissé sur le cul. C'est une des scènes qui m'a le plus marqué de toutes les fictions que j'ai pu regarder cette année, en tout cas. Oh, wow. Je ne sais pas si tu as beaucoup regardé X-Files, Julien, toi, avant, ou si Tapie, tu l'as vu passer aussi. Non?
Alors, je n'ai pas vu passer Tapie, mais ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est noté. Et X-Files, non, je suis né en 92. Je pense que j'ai loupé de quelques années. Je me rappelle d'une version en jeu vidéo un peu point and click que j'avais sur un vieux PC quand j'étais gamin, qui m'a introduit au moins à l'univers de la série, mais c'est à peu près tout. Non, mais c'est noté, ça m'intéresse.
Et est-ce que tu avais une reco de ton côté à compléter?
Alors oui, alors moi, je suis très occupé par Top Chef maintenant, que j'attrape un petit peu en retard, mais je me suis pas encore fait spoiler, donc ça va. Et j'ai regardé Masterchef Brésil aussi, parce que du coup j'apprends aussi le portugais, donc c'est intéressant via la cuisine.
Génial.
Faut commencer par un sujet qui nous intéresse.
Très bien.
J'ai commencé aussi en parallèle une série qui s'appelle The Pacific ou Band of Brothers Pacifique, quelque chose comme ça. Bref, c'est la suite de Band of Brothers, et je me suis rendu compte qu'elle vient d'atterrir sur Netflix. Alors, c'est une série, mini-série HBO. Alors, peut-être que c'est pas sur Netflix français, je sais pas, mais en tout cas, au Portugal, ça l'est.
Je l'ai pas sur Netflix français, effectivement.
Eh bien, regardez-le quand même, débrouillez-vous. Mais Band of Brothers, je crois que je le regarde une fois par an à peu près. C'est globalement, il faut sauver le soldat Ryan, mais en mini-série de 10 épisodes de 1h30 ou 2h, c'est d'une qualité incroyable. Ça a été créé par Steven Spielberg et Tom Hanks, qui sont aussi producteurs exécutifs, et vraiment c'est d'une qualité incroyable. On suit une compagnie de soldats américains pendant toute la Seconde Guerre mondiale, donc du débarquement jusqu'à la fin, et c'est tiré d'histoires vraies, de personnages réels, etc. Et c'est d'une qualité exceptionnelle si vous aimez un petit peu les films de guerre, mais qui vont quand même un peu en profondeur sur l'aspect réel et sur l'aspect historique, avec des belles images, que des décors naturels, etc. C'est vraiment sublime. Ça prend un peu de temps, mais c'est pareil, ça vaut le coup, vraiment.
Trop bien, merci beaucoup pour cette reco, c'est chouette. Ouais, je pense que les auditeurs ont de quoi s'occuper, d'une part en se libérant l'esprit de la charge mentale qui les occupe, qui les envahit, et puis pour se divertir, c'est aussi ça, de se libérer de la charge mentale, que de trouver des espaces de divertissement. J'espère qu'on vous aura fait des préconisations qui seront de matière à vous égayer votre quotidien. Merci infiniment, Julien, à double titre, d'une part d'avoir été présent pour cet épisode, mais aussi d'avoir suggéré le fait qu'on ne laisse pas tomber notre créneau d'enregistrement de ce soir. Matt nous rattrapera pour l'épisode prochain. S'il écoute l'épisode jusqu'au bout, et c'est un bon moyen de le tester, on lui fait des bisous et des coucous et on le laisse nous tenir au courant pour la suite. Et en attendant, on vous laisse aussi nous tenir au courant parce qu'il y a plein de moyens de nous joindre et de nous contacter. Il y a les réseaux sociaux d'une part. De manière la plus simple qui soit, c'est relifepodcast.com. Vous avez un site internet, une page, vous avez toutes les informations et tous les liens qui vont bien, et vous avez même un lien vers la page Patreon, parce que ReLife est disponible gratuitement pour toutes et pour tous, et vous pourrez y accéder aussi longtemps que le podcast sera disponible. Mais pour autant, si jamais vous pensez que le contenu vous aide, vous inspire, vous divertit, vous fait passer un bon moment, si jamais vous vous dites « Ah, ça m'embêterait quand même que ReLife disparaisse et arrête de diffuser d'épisodes », vous pouvez garantir la diffusion dans le temps et nous soutenir en allant sur patreon.com/ReLife Podcast. Ça vous prend quelques euros par mois et en fait vous pouvez même le plafonner, le suspendre à tout moment, donc aucune excuse pour ne pas envisager un soutien. Julien, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver?
Bien oui, comme toujours sur julien.desrépons.fr, vous trouverez tous mes liens vers mes réseaux sociaux, etc. Et puis sur Tech Run-ins maintenant, le podcast du leadership technique avec Pierre, et du coup tech-runins.fr incessamment sous peu.
Très bien, merci beaucoup Julien, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous.